Bienvenue à chacun et à chacune pour cet enseignement fondamental sur le Christ crucifié, la passion et la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en temps pascal, mais il est quand même bon de méditer la crucifixion du Christ, parce que le Christ, nous allons le voir, est toujours en agonie. Parce que la crucifixion, la passion, la crucifixion de notre Seigneur est le lieu par excellence de l'amour, de sa révélation, parce que nous sommes attachés mystérieusement à la croix de notre Seigneur depuis notre baptême, parce que c'est notre chemin de vie et de guérison, parce que c'est le sens du salut du monde et que le Seigneur le veut. Alors, la passion du Seigneur, elle n'a pas bonne presse. La croix du Seigneur, elle n'a pas bonne presse parmi les chrétiens, hélas. Pourtant, le Saint-Père, dans sa première homélie de pape François, voilà ce qu'il a dit aux cardinaux. Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix, et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Et ainsi, l'Église ira de l'avant. Je souhaite à nous tous que l'Esprit Saint, par la prière de la Vierge notre Mère, nous accorde cette grâce. Marcher, édifier, confesser Jésus crucifié, qu'il en soit ainsi. Voilà une parole de vrai pasteur. Voilà une parole de vérité, frères et sœurs, qu'il nous faut entendre. Il faut confesser, suivre le Christ crucifié, même si c'est pas à la mode. Je disais que c'est pas à la mode parce que, bien souvent, la tentation fut grande, je l'ai déjà dit, dans les chemins de croix, de rajouter une 15e station pour ne plus s'arrêter sur la mort du Seigneur, tout de suite, la résurrection. La tentation a été grande d'enlever la figure du Christ crucifié sur les croix. Voilà, simplement une croix, une sorte de logo, et pas trop douloureux, pas trop sanguinolent, s'il vous plaît. Ou alors de transformer la croix en quelque chose de très joyeux, des croix un peu jeunes, des calcomanies, voilà, fluo, un peu copain universel. On en a vidé le sens. Et on a peur que montrer la croix telle qu'elle est, un instrument de torture, ne plaise pas. De fait, ça ne plaît pas. Ça n'a pas plu aux premiers chrétiens, puisque la représentation du Christ crucifié ne s'est pas fait tout de suite dans l'histoire de l'Église. Ça avait été un tel traumatisme. En amont, il y eut la représentation de Jésus bon pasteur. Mais en son temps, c'est venu peu à peu et ça a pris une place centrale dans le mystère de l'iconographie chrétienne. Mais dès l'Écriture, dans l'Écriture, ça a une place centrale. C'est ce que nous appelons le mystère pascal, cette articulation mystérieuse entre la mort et la résurrection du Christ qui est la clé de l'Évangile. Proclamer l'Évangile, c'est proclamer Jésus qui est mort pour mes péchés, qui m'a sauvé, pardonné parce qu'il est mort pour moi et qu'il est vainqueur parce qu'il est ressuscité. Donc c'est lié, il n'y a pas de résurrection sans passion. On ne peut pas faire l'économie de la passion pour passer tout de suite en résurrection. Et le chemin chrétien qui est de vivre avec Jésus, c'est pour espérer un jour être ressuscité et vivre déjà avec le ressuscité, mais c'est vivre la passion avec le ressuscité. On passe par la croix. Donc il faut se réapproprier le chemin de croix, la contemplation du Christ vraiment sur la croix, telle qu'elle est. Une sœur religieuse confiée à des adultes qui se préparaient au baptême, que bien souvent quand on montre Jésus à la croix à des enfants, ils n'ont pas les préjugés que nous pouvons avoir dans notre culture un peu édulcorée de tout aspect de la souffrance qu'on veut cacher. Ils regardent cela et ils en sont touchés dans le cœur. Voilà. Avec leur intelligence d'enfant, mais ils en sont touchés et souvent c'est un lieu de paix. C'est très étonnant, mais les choses souffrantes dans les mystères de Dieu ne sont pas comme dans les films gore de souffrance qu'on peut voir qui nous abîment l'imagination, qui nous abîment la sensibilité. Non, quand Dieu se montre souffrant, c'est un lieu de paix et de consolation. Voilà, ça fait un grand bien à l'âme. Le témoignage de ses enfants, nous disait la sœur, est un exemple. Donc, ne pas cacher aux enfants la croix du Christ, sous prétexte qu'ils ne comprendraient pas, parce que c'est faux. Voilà. À titre personnel, il m'est arrivé de prendre la croix et de la faire embrasser par des enfants de maternelle, ça touche. Voilà. On est loin de la croix en fluorescent les copains, etc., parce qu'il faut être du curé, le message chrétien. Ça touche. Donc ça, c'est notre fierté. Rappelons-nous que la croix, c'est notre porte d'entrée dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous invoquons la Trinité en faisant un signe de croix. Voilà. Donc c'est notre porte d'entrée dans la prière. Et nous allons voir, c'est le lieu par excellence pour nous connaître et connaître l'amour de Dieu. C'est le lieu par excellence pour nous connaître et connaître l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que la croix, frères et sœurs? Je dirais trois choses. La croix est la révélation du péché de l'homme. La croix est la révélation du péché de l'homme. Et nous voyons, quand je dis révélation, je veux dire la mise en lumière telle que c'est dans la vraie vie, pas telle que c'est pensée ou imaginée. On ne voit pas toujours tout. Là, c'est mis en plein jour. C'est la révélation, le gros projecteur. La croix aussi, c'est un miroir de ce qu'est l'homme. On va le voir. C'est mieux qu'une radiographie. Des fois, nous voyons l'intérieur, comment on fonctionne, etc. Un miroir, on voit si on est bien coiffé ou pas, si on est bien maquillé. La croix, c'est le vrai miroir spirituel de notre condition. Et la croix, c'est aussi la lettre d'amour, le témoignage d'amour par excellence de Dieu pour nous. Et on pourrait rajouter encore, la croix, c'est le médicament social, le médicament existentiel pour tout homme, et c'est le chemin de l'union et de la sainteté. Alors, proposé comme ça, c'est étonnant, et je n'enlève pas du tout le fait que ça soit un lieu de souffrance. La croix, c'est la révélation pleine du péché de l'homme. Quand nous regardons la croix, nous voyons la souffrance que le Seigneur a pris sur lui, alors qu'il est innocent. Quand nous voyons la croix, nous voyons réellement ce que la créature est capable de faire au Créateur. Le Seigneur dira en Saint-Luc, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, combien de fois aurais-je voulu te rassembler comme une poule prend sous ses ailes ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Les hommes se sont rebellés à Dieu depuis que l'homme est homme, non pas initialement puisque l'homme est créé sans péché, mais l'homme est devenu pécheur librement, et depuis la nuit des temps, l'homme désobéit. L'homme veut quelque part à une nature corrompue qui le fait choisir plutôt sa vie que la vie de Dieu. Et du coup, il y a une forme de blessure dans l'homme qui est faite, une blessure dans la communion avec Dieu, dans la communion dans l'homme lui-même et avec les autres. Et cette blessure blesse le cœur de Dieu, blesse le cœur de Dieu. Voilà, Dieu est blessé de cela. Et quand Dieu s'approche de l'homme, ben, l'homme qui est blessé blesse Dieu. Je vais vous donner une image, ça va vous parler. c'est la théorie du porc-épic. Un porc-épic, c'est piquant. Ou un hérisson, c'est pareil. Si vous voulez, quand ça se défend, ça met des pics. Quand c'est calme, ça descend les pics. L'être humain qui est blessé dans sa spiritualité, son intelligence, son affectivité, dans tout son être, il est tellement blessé qu'il est meurtri lui-même et il meurtrit les autres. On voit ça dès la Genèse. Il y a une domination entre l'homme et la femme. Cain et Abel se tuent. Il y a des rivalités. On tue au nom de Dieu. On tue l'image de Dieu. On tue l'homme. On divinise l'homme, etc. L'animal est mis au-dessus de l'homme, des fois. Donc, on tue. Le Seigneur le voit et en toute justice, il a droit de laisser l'homme à son sort. Il aurait le droit, puisqu'il a fait ce qu'il avait à faire, et l'homme est libre. Mais le Seigneur, qui est bon, encore plus bon, peut-être qu'il n'est juste, veut continuer à être avec l'homme. Et l'homme qui blesse, au contact, tout ce que touche l'homme, pécheur, blesse, le Seigneur a deux solutions. Soit il ne rejoint pas l'homme, et il le laisse avec ses blessures et ses piques, soit il le prend dans ses mains pour le soigner. Et le Seigneur veut faire le choix de l'amour de le prendre dans ses mains. Et en le prenant dans les mains, l'homme pique. Et l'homme va piquer Dieu. L'homme va piquer dans les clous, piquer dans la lance, dans le couronnement d'épines, dans la passion. Et le Seigneur étreint sa créature en la prenant sur lui. S'il la lâche, la créature ne sera pas soignée. S'il la prend pour la soigner, lui sera blessé. Et pour la soigner, pour diminuer les piques jusqu'au bout, il doit continuer à la porter, même si celle-ci se défend en blessant. Voilà, on n'a pas envie forcément d'être soigné. Et en fait, on a blessé le Seigneur. Nous avons cela dans l'Écriture, dans la révélation que le Christ fait dans l'Évangile. Il vient faire du bien. Saint Jean dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà. Il est venu annoncer l'accomplissement messianique. Il est venu annoncer que les promesses faites par les prophètes allaient se réaliser, qu'il était celui qui pardonnait les péchés, et on ne l'a pas cru. On a préféré le ringardiser, se moquer de lui. Finalement, lui a tenté un procès. Et le juger. L'homme religieux qui était préparé par la révélation à accueillir Dieu s'est finalement fermé sur lui-même et au lieu d'accueillir son Dieu, l'a persécuté avec ses propres armes. Voyez, c'est mystérieux, mais c'est vrai. Et pourtant, Dieu ne laisse pas cela. Il va jusqu'au bout, il va venir vers sa créature et sa créature va le blesser. Donc, nous mesurons la blessure que nous faisons à Dieu en voyant le Christ à la croix. À la croix, dans la passion et la croix, nous avons véritablement le témoignage, les marques de ce que l'homme a fait à Dieu. Et souvent, quand nous disons « Oh, vous savez, j'ai rien fait, moi », ben nous sommes dans le clair-obscur, nous voyons dans la grisaille, ou peut-être même dans la nuit. Celui qui commence à contempler la croix du Christ va voir sa culpabilité. Et c'est bon, spirituellement, de prendre conscience de son péché. Dans les exercices de Saint Ignace, la première semaine, elle est consacrée à méditer la passion du Christ. Et une des grâces à demander, c'est de pleurer ses péchés. Ça s'appelle l'illumination, la prise de conscience de sa culpabilité. Et ça, c'est la grande révélation. C'est de voir que l'homme est pécheur et que l'homme a blessé Dieu. Et qu'un saint, c'est quelqu'un qui rentre progressivement dans la lumière et progressivement, il voit son péché. Ça lui est révélé progressivement dans la lumière de la croix. Donc la croix, c'est véritablement un révélateur, frères et sœurs. C'est un révélateur. Et parce que souvent, nous oublions la culture de la contemplation de la croix, non pas édulcorée, mais la vraie croix, nous ne mesurons plus notre péché et nous en sommes bien contents. Il faut retrouver ce sens-là, non pas pour nous culpabiliser à outrance, pour voilà souffrir comme des sadiques, mais parce qu'il faut être vrai. Et être vrai, c'est mettre les choses en pleine lumière. Chez les chrétiens, la pleine lumière, ça s'appelle le projecteur de la croix. On voit les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles sont rêvées. Ça, c'est... Et du coup, on base sur des choses solides. Sur des choses solides. La deuxième chose, c'est que cette croix est un miroir, frères et sœurs. La croix, c'est ce que dira Pilate en voulant rendre Jésus aux Juifs sans le condamner à mort. Et nous voyons que le phénomène du péché amène au délire collectif, à l'hystérie, à l'irrationnel, et que derrière cela, c'est poussé par le démon. Toutes les retenues sautent. Le coupable Barabbas s'est rendu, l'innocent est crucifié, on est dans l'irrationnel, au nom de Dieu. Voilà. Pourtant, et puis ceux qui ont pouvoir ne réagissent pas parce qu'ils préfèrent leur confort à un courage de dire ben, « je risquerai peut-être la guerre civile, mais non, le juste ne sera pas tué. Non, plutôt je préfère m'en laver les mains, il faut que je tienne à mon poste. Donc je vous le rends. » Donc l'irrationnel prend le dessus, c'est le mystère du mal. Mais Pilate a une phrase, il ne le sait pas, mais qui est prophétique. « Voici l'homme, ecce homo, voici l'homme. » Il montre le vrai homme, qui est Dieu, fait homme, Jésus. Nous, nous sommes des hommes et des femmes en devenir dans le Christ. Le Christ est notre modèle. Mais c'est aussi le miroir de l'homme blessé. Notre miroir de ce que nous nous sommes faits à nous-mêmes. Des traces de notre péché. Des traces de nos blessures, des traces du péché des autres qui a provoqué sur nous des blessures. Jésus les porte complètement. C'est le vrai miroir. Je vous disais, c'est le vrai scanner. Vous voulez voir si vous avez un cancer, vous faites un scanner, je crois. Quelque chose comme ça. Vous voulez voir si vous avez un cancer spirituel, vous regardez la croix. Et le Seigneur vous scanne. Voyez. On a tous de la lèpre. On est tous muets, sourds. Et le Seigneur montre cela, montre ses blessures. Bienvenue dans la vraie vie. Pas dans la vie rêvée, bienvenue dans la vraie vie. Et c'est important de prendre conscience de cela. Voici l'homme. Donc nous mesurons vraiment notre péché, ce que nous sommes réellement spirituellement, des créatures abîmées. Et Jésus nous a rejoints, lui qui est parfaitement ordonné, parfaitement sans péché, nous a rejoints. En prenant sur lui, nous dit l'Écriture, il s'est fait péché sur nous, pour nous. Il s'est fait péché, il a été recouvert du péché. Recouvert physiquement, flagellé, frappé, mais aussi spirituellement, le péché a voulu rentrer, la tentation, l'agonie. Jusqu'au bout de son âme, a envahi son âme. Il n'a pas collaboré à la tentation, il n'a pas adhéré, il n'a pas péché. Mais ça l'a envahi comme du pétrole envahi de la mer. Limpide. Ça s'est noirci complètement. Il est dans l'angoisse. Et donc, le Seigneur nous montre, a pris sur lui tout notre péché et nous montre quelque part l'état de l'homme, l'état des lieux. Et pourtant, donc ça, c'est la mise en lumière, notre culpabilité, notre état réel. Et pourtant, c'est aussi la croix faite par amour. C'est le lieu par excellence de la grande lumière. Oui, parce que le Seigneur, à la croix, ne juge pas d'abord. C'est ce qui est dit en Jean 3, 16, 17. Il n'est pas venu juger, mais pour sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Le Christ, la sœur Faustine, rappellera que sur la croix, il avait le regard baissé, parce qu'il n'était pas là pour condamner. Donc le Christ n'est pas venu pour condamner, et le regard du Christ en croix est un regard miséricordieux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le regard du Christ est un regard compréhensif, un regard qui a de l'empathie pour la souffrance de ses frères, auquel il s'est lié, auquel il s'est fait pécher pour nous. Et c'est un témoignage d'amour, parce qu'en toute justice, nous avions droit à rester dans notre saleté. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Nous portons tous une culpabilité vis-à-vis de Dieu. C'est ce que la croix nous révèle. Et si nous n'en avons pas conscience, il est bon de contempler plus la croix pour en prendre conscience. Et en toute justice, Dieu aurait pu laisser l'homme à lui-même. Il ne lui doit rien. Mais Dieu s'est attaché à sa créature. Elle a du prix à ses yeux et nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. J'ai gravé ton nom dans les paumes de ma main. Tiens, ben j'ai tellement gravé qu'en fait tu m'as cloué la main. » Et donc du coup, le Seigneur, il s'est attaché à sa créature et il a décidé de l'aimer jusqu'au bout. Jean 13, 1. Jésus aima les siens jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et la croix, c'est l'expression de l'amour du Seigneur pour nous. Tous les saints le disent, si nous voulons être fervents dans l'amour, à une vraie ardeur missionnaire, un vrai amour de Jésus, il faut contempler la passion du Christ, qui est le lieu de l'amour de Jésus pour moi. Personnellement, Galates 2, 20, ma vie, je la vis maintenant dans le Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi, dit saint Paul. Voilà, contempler cela, c'est prendre conscience d'un amour fou qui a voulu me racheter, un amour qui a voulu me pardonner, un amour qui a pris mon péché, qui a souffert de ce que j'ai souffert. Je m'arrête là-dessus. Bien souvent, on dit ben, « Seigneur, je souffre ». Oui, ben, c'est normal, j'ai peut-être tel ou tel péché. Ça, c'est déjà bien de l'accepter, parce que généralement, on ne l'accepte pas. On dit « je souffre », c'est pas normal. Il y a des conséquences de notre péché sur nous-mêmes. Ça fait partie du mystère de la souffrance. Et puis, on est toujours en rébellion. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Et il est bon d'avoir à un moment donné une conversion intérieure et de ou la demander au Seigneur, d'entendre le Seigneur qui nous dit « Je compatis avec toi. Tu sais, j'ai pris ta croix sur ma croix. J'ai porté tes blessures et je les porte toujours. Est-ce que tu veux les porter avec moi ou les porter toujours en mode rébellion ?» Voyez ? Et du coup, celui qui s'est aimé, qui a découvert que le Christ l'aime, à un moment donné, il veut porter sa croix avec Jésus. C'est ce que fait Paul. Paul, il accomplit dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Mais Paul, la passion du Christ, elle est complète, nous allons voir. Mais Paul a compris qu'il y participe et qu'il peut souffrir avec et que c'est un lieu d'amour. C'est un lieu d'amour. Jésus m'a aimé jusqu'au bout. C'est extraordinaire de voir ça. Et c'est un amour infini. C'est incroyable. Hein? Dieu donne son Fils pour chacun d'entre nous sur la croix. Voilà. Arrêtons-nous là-dessus. La croix n'est pas le courroux céleste du Père qui a vu les mauvais élèves et qui dit ben toi, il y en a un qui est innocent, désolé, tu vas trinquer pour les autres, on prend la règle et on tape avec la croix. Ce n'est pas ça. C'est que le Père est tellement plein de compassion pour chacune de ses créatures qu'il accepte de donner son Fils. Quel parent ferait ça ? Quel parent donnerait son fils pour son bourreau ? Personne. Dieu l'a fait. Ça veut dire que nous avons du prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jean 3, 16. La croix est vraiment l'expression de l'amour du Père pour nous. La croix est l'expression du Fils qui a aimé jusqu'au bout. La croix est la grande lumière du Saint-Esprit. Et oui, Saint Jean dit « Nous avons vu sa gloire ». Et dans l'évangile de Saint Jean, la gloire, c'est à la fois la passion et la résurrection. Il y a comme une lumière. Et oui, il y a une grande lumière qui est faite à la croix. Et nous avons dans les évangiles le récit d'un légionnaire qui se convertit à ce moment-là. Parce que c'est la lumière qui éclaire. C'est la croix. Voilà. C'est lié. Donc il y a un témoignage d'amour qui est fort à vivre cela. Et du coup, le Seigneur nous invite à vivre la vénération de la croix, à vivre le chemin de croix, à vivre le chemin, donc je dirais le chemin de croix comme chemin de guérison, comme chemin de joie et comme chemin de foi. Mais avant cela, peut-être méditer les éléments de la passion du Christ, quelques instants. L'agonie du Christ, d'abord, même avant ça, il est bon peut-être de parler du péché de l'homme et de voir comment le Seigneur guérit l'homme. Le Seigneur ne guérit pas l'homme par la souffrance, fondamentalement. Il guérit l'homme par l'amour. Et l'amour est guéri par le Seigneur par l'obéissance à la volonté du Père. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Le salut est rentré dans le monde par l'obéissance. Et nous dit l'Épître aux Hébreux, le Christ dit « Voici Père, je viens faire ta volonté ». Cette parole de faire la volonté de Dieu, du Père, c'est l'expression de l'amour du Fils pour le Père. Et il sait très bien que dans cette expression, le Fils, dans cette attitude fondamentale de tout son être, il y a en jeu le salut de tous. C'est un acte d'amour. Il s'offre. Et il s'offre dès le départ de son incarnation. Dès l'incarnation, c'est l'abaissement. Philippiens 2, le Fils qui avait condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. On a l'abaissement du Christ, la kénose dès l'incarnation, qui est déjà l'offrande du Fils éternel qui dit « Je viens faire ta volonté par amour ». C'est déjà sacrificiel. Et nos frères orthodoxes qui représentent dans les icônes de la nativité le Christ emmailloté avec les linges de celui qui est mort. Il donne sa vie. Voilà. C'est déjà le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, tout petit. Tout petit, il est déjà sacrifié. Et dans la très grande tradition de l'Église, on méditait aussi les plaies du Christ. Et il y avait aussi la circoncision, ouais, c'est-à-dire cette souffrance que le Seigneur offrait dès son enfance pour le salut des hommes. Voilà. Donc il y a toute cette souffrance, cette incompréhension, cette précarité de l'enfance du Christ, etc., qui sont comme une offrande du Christ pour le salut. Je viens faire ta volonté. Toujours dans l'obéissance. Et cette offrande de lui-même va se, on va dire, s'amplifier, si on peut dire, en tout cas se manifester de manière plus éminente dans la passion sanglante du Seigneur, qui commence par l'agonie. Et là, le Seigneur redira ce qu'il dit toujours dans l'Épître aux Hébreux, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et en rentrant-nous un instant, le Seigneur n'a pas triché. Ce n'est pas du genre, de toute façon, il avait 3 jours à tirer, après ça irait mieux, le savait, il est Dieu. Tandis que nous, ça dure, c'est pas pareil. Dieu n'a pas fait semblant, il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert énormément. Il est l'être humain qui a le plus souffert dans toute l'histoire de l'humanité. Physiquement, spirituellement. Et ce que nous voyons physiquement n'est que le pâle reflet de ce que spirituellement il a souffert. Qui était tellement insoutenable que les anges ont dû l'assister à l'agonie. Et dans son humanité, il en a été révulsé. Seigneur, si tu veux, cette coupe, qu'elle s'éloigne de moi. Donc il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert dans toutes les dimensions de son être. Ce qui est mystérieux, c'est que nous ne sondrons jamais le degré de la souffrance du Christ. Peut-être qu'il nous sera donné à chacun d'entre nous d'y participer d'une manière, de le sonder, pas qu'intellectuellement, surtout existentiellement, spirituellement. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui reste un secret, il n'y a que lui qui porte ça. Et parfois, le Seigneur permet que tel saint, tel mystique, reçoit une grâce de participation plus importante à la souffrance de Jésus. Voilà, c'est mystérieux, mais c'est vrai. Chemin, le Seigneur a souffert cela. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça commence dans la passion du Christ de manière imminente. Ça commence avant de l'incarnation. Mais dans la passion du Christ, il y a quelque chose avec l'agonie qui nous est voilée. Il y a quelque chose qui se joue entre Dieu, entre le Fils et le Père, de cette libre adhésion à nouveau à l'offrande de lui-même, avec ce déferlement du combat des ténèbres qui se retrouvait avant au désert. Le démon avait tenté au désert, il l'a laissé tranquille, maintenant il retente le Seigneur, très fortement. Et c'est très intéressant parce que nous avons par les mystiques certains éléments de la tentation du Seigneur. Le Seigneur, dans le 9e jour de la neuvaine à la miséricorde, dit à sœur Faustine, un des éléments où il a été le plus touché dans son agonie. Voilà ce qu'il dit à sœur Faustine. « Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ces âmes-là blessent le plus douloureusement mon cœur, les âmes froides. Au jardin des Oliviers, ce sont les âmes froides qui m'ont inspiré la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit, Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta volonté. Pour elles, le secours à ma miséricorde est la dernière planche de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a été tenté de ce que son sacrifice serait inutile. Il a été tenté par le découragement, que ce qu'il allait faire serait en vain presque. Le démon voulait contrecarrer les plans. Et du coup, tu pourras pas porter ça, c'est trop lourd pour toi, tu n'y arriveras pas, etc. Ils vont pas t'écouter de toute façon, etc., etc. Il en a été meurtri dans son âme. Et comme il voit tous les temps le Seigneur, il voit les âmes tièdes qui n'adhèrent pas à son projet de salut. Et il en est profondément blessé. Ça nous dépasse, mais c'est vrai. Voyez, la première chose pour aider le Seigneur, c'est d'accueillir la souffrance du Seigneur qui nous sauve. C'est d'accueillir son salut. Refuser le salut du Seigneur, ça le fait souffrir. Parce qu'il a souffert ça gratuitement. Donc c'est un combat d'entrée de jeu comme une sorte de... On empêche que le chemin continue, voilà. On arrête la bonne volonté, découragement. Et puis après, ça c'est ce qu'il y a de plus profond. Et puis après, ça va se manifester à différentes strates, on pourrait dire. Dans la flagellation, le mystère qu'on médite. Donc le fruit du mystère qu'on peut prendre dans le chapelet, dans les mystères douloureux, c'est faire la volonté du Père. Voilà. Faire la volonté du Père. De préférer la volonté du Père à la nôtre, l'obéissance. On va voir que ça nous réconcilie avec l'amour et l'amour de Dieu. On verra ça après. L'obéissance, la volonté du Père. Rentrer dedans comme le Christ. La flagellation, plus une dimension corporelle, physique, le Seigneur a été martyrisé dans son corps, torturé, violenté, livré à l'impudicité. Là, il était dénudé. Donc il a connu un peu toutes les formes de torture physique. Voilà. Donc il a encaissé les torturés, les prostituées, les abîmés, les moqués, les abusés. Il a pris ça sur lui. Voyez, l'innocent. Il a pris les plaies. Et les plaies se voient sur le corps. Voilà. Et on verra ce que dira Isaïe, ce qui est magnifique. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ça va être l'instrument, les lieux, les plaies de Jésus, l'instrument de la guérison. Extraordinaire. Voilà. Les plaies. Donc c'est corporel. De quand il a accepté la mission, on commence le chemin, on prend les plaies. Puis les plaies vont s'intérioriser. C'est le couronnement d'épines, des plaies plus... C'est physique, hein. Mais c'est aussi plus spirituel. C'est la créature qui se moque de son créateur. C'est la créature qui humilie son créateur. On touche à des plaies plus profondes. On touche à l'orgueil, à l'ego. Des choses qui sont plus profondes que les domaines de la luxure ou de la violence. Voyez ? Ou du corps, on touche à des blessures de l'âme, et des blessures de l'âme vis-à-vis de l'âme de Dieu vis-à-vis de l'homme vis-à-vis de Dieu. Inversion des rôles, moquerie. Et Dieu prend, encaisse. Et là, silence. Silence. Voilà. Silence. Et puis, donc les plaies là, bien sur le corps, sur l'intérieur. Faut durer maintenant. Faut durer. Le chemin de croix. C'est de la constance. Ça va durer un certain temps. Avec des failles, on tombe. Avec des soutiens pour être aidé, Simon Cyrène, etc. Et pourtant, ça va durer. Donc il y a une histoire de temps, une douleur qui dure. Et en même temps, dans le chemin de croix, il y a l'acceptation au départ. Non, on y va. C'est pas inutile. Ça servira. Pourvu qu'elles se convertissent toutes ces âmes. Et j'impacte, le Seigneur impacte les coups physiquement, impacte les coups spirituellement. Et il dure, il va aller jusqu'au bout, chemin de croix. Et le bout du chemin de croix, c'est la croix. C'est, il a tout donné, tout est accompli. Il remit l'esprit, il est allé jusqu'au bout, Jean 13, il les aima jusqu'au bout. Donc là, vous avez la dynamique du don de l'amour. L'amour qui préfère les autres à soi. et qui est tenté par le fait que ça pourrait être inutile, mais qui préfère les autres à soi, qui donne son corps, qui donne son âme, qui donne toujours, toujours jusqu'au bout à l'épuisement. Voilà. Et même, les mystiques rajoutent, avec le percement de la lance, le côté du Christ, il y a encore du sang et de l'eau qui sortent comme un surplus. Dieu voulait donner plus, encore. Donc voilà, le Seigneur donne, et la passion du Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour nous, dans les souffrances qu'il encaisse pour nous. Voyez, l'inconstance de l'homme à obéir, le Seigneur le répare par sa constance de chemin de croix. L'homme qui ne sait plus se donner, le Seigneur se redonne complètement jusqu'à la croix. L'homme qui humilie son Créateur, le Seigneur se laisse humilier. L'homme qui s'est blessé physiquement, le Seigneur se laisse blesser. L'homme qui a désobéi, le Seigneur obéit. Donc, la passion du Christ, c'est un lieu de guérison pour l'homme. Je disais chemin de guérison, chemin de joie, chemin d'union. La passion du Christ, c'est un chemin de guérison. Pourquoi ? Parce que nous sommes auto-centrés, frères et sœurs, depuis le péché. Nous prions en disant, et moi le premier, « Mon Dieu, bénis-moi, donne-moi, viens à mon aide, fais-moi plaisir, montre-moi, et guili-guili spirituel, etc. » On a beaucoup de mal à se décentrer. L'homme est devenu indépendant de Dieu. Il ne croit plus que son bonheur, c'est en Dieu. Donc il se cherche tout seul. Il trouve des ersatz de bonheur, mais qui ne sont jamais le vrai bonheur. Et il est difficile de sortir de la convoitise, de tout redonner. Et le Seigneur le sait, et les sens sont abîmés. L'intelligence est abîmée. Et donc le primat du spirituel n'est plus premier, n'agence pas tout cela. Et donc le lieu de la souffrance va être le lieu de la guérison, parce qu'on n'est pas tenté de souffrir. On souffre, mais on n'en a pas trop envie. Et donc quand on aime dans la souffrance, on aime sans goût, sans saveur, sans attirance. Or justement, si c'est ça, si c'est sans attirance, et si on y va, c'est que parce qu'il y a un intérêt supérieur. Le Seigneur y va sans goût, parce que l'homme, avec le goût, a perdu le sens de Dieu. Il préfère les choses d'en bas plutôt que les choses d'en haut, depuis qu'il est pécheur. Et par la souffrance, le Seigneur remet les choses en place. Ce qui est sans goût, qui est douloureux, s'il est choisi, est un bien plus grand, qui réordonne la créature en préférant le spirituel à l'intellectuel. Et oui, il y a des choses dans la croix qui ne sont pas compréhensibles. C'est un scandale. Ça blesse l'intelligence. On ne comprend pas pourquoi Dieu passe par là. Mais pourtant, c'est le chemin de la guérison. Parce que l'intelligence doit apprendre à réobéir à une volonté supérieure à elle, qui est plus grande, non pas irrationnelle, mais suprarationnelle, plus grande. Et pour cela, elle s'incline à la volonté de Dieu, voire même dans l'aveugle, dans la nuit de la croix. De la même manière, la raison est reposée parce que la passion est dominée par la croix, parce que quand on avance dans la flagellation, dans le portement de croix, on se fait violence dans les sens. Et le Seigneur guérit. Et en faisant cela, il réapprend l'amour agapé, le décentrement. Je t'ai aimé au-delà des sens, au-delà de l'autocentrement. Et je t'ai aimé jusqu'au bout. Et donc le chemin de croix pour nous, c'est un chemin de guérison d'amour. Parce que nous préférons Dieu à nous-mêmes et les autres à nous-mêmes. Béni soit le Seigneur pour les chemins de croix de nos vies, même s'il nous faut nous aider les uns les autres à les porter, car c'est dur. Béni soit le Seigneur pour cela, c'est le grand lieu de l'amour. C'est pas à la mode, mais c'est vrai. Et saint Paul le dit dans l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, « L'amour supporte tout, l'amour endure tout. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. » Ben ça, c'est, il a la méditation du Christ crucifié devant lui. Voyez ? Donc nous sommes appelés avec le Christ à vivre cela. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit ce chemin de guérison. Donc il faut contempler la croix. Il faut passer du temps à regarder, à faire un chemin de croix, à méditer le mystère douloureux. J'ai découvert que Jean 23 avait le chapelet aux saintes plaies. Le chapelet de la Divine Miséricorde, c'est pas sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. On le fait à 15h le jour de la Passion du Christ. Ça veut dire qu'on médite la Passion du Christ comme un lieu d'amour et en y participant, on se restaure dans l'amour. Voyez, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas aimer. On confond le choix avec le sentiment. Si nous sommes des personnes qui aiment vraiment, on va aimer avec un vrai choix. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, fort, donc avec de la croix. Et ça va durer, chemin de croix. Eh bien, on a besoin d'engagement. On a besoin de méditer le Seigneur qui s'est engagé. La croix, chemin de guérison, ça nous restaure, ça nous réordonne intérieur. Et pourtant, la croix, chemin de joie. C'est mystérieux, mais il y a des antinomies dans la vie divine. Le Christ est heureux de vivre cela, même si c'est profondément abject et douloureux, parce qu'il est profondément toujours uni au Père. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père », dira-t-il un jour. À la croix, il fait la volonté du Père, tout est accompli. Les grands saints font l'expérience que la croix est à la fois douloureuse, mais source de paix. Je vous disais pour les enfants qui regardent la croix, mais c'est vrai que quand on a accepté la croix au lieu de s'en rebeller, et qu'on accepte de la porter avec le Christ qui la porte en nous, on a la paix. Et on est dans la joie, parce qu'on est là à sa place. Et c'est la vraie joie chrétienne, c'est la joie de Saint François, du crucifié, la joie parfaite. Toutes les béatitudes sont des béatitudes de crucifiés. Heureux les pauvres de cœur, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, heureux ceux qui pleurent. C'est Pascal, hein, c'est mort et résurrection, c'est pas la vraie joie en dehors de ça. Le monde propose de fausses joies. Nous n'avons pas à chercher les douleurs, nous n'avons pas à inventer des croix. Mais ce qui nous est permis de vivre dans notre vie est le lieu de la vraie joie vécue avec Jésus-Christ. Et c'est le lieu de l'union. Saint Jean de la Croix le dit. C'est le lieu où Dieu seul suffit, dirait Thérèse d'Avila. C'est-à-dire, le lieu de l'union, c'est le lieu où il n'y a plus rien sauf le Christ à la croix. C'est le lieu de l'union. Les grands saints sont unis au Christ à la croix. Vous regarderez, c'est très beau, Louis-Marie Grimontfort, on est dans les 300 ans, dans la statue, il monte, il est comme ça avec la croix. Voilà. Il a écrit dessus. C'est ça, hein. Donc on est loin du christianisme et du coré, là. Il faut savoir que c'est notre vocation. Parce que être baptisé, c'est être plongé dans la croix du Christ et dans la résurrection du Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous vit quelque chose de la passion du Christ. Le Seigneur a désiré vivre quelque chose de son mystère dans nos vies, dans nos faiblesses, dans nos maladies, dans nos persécutions. Et ça fait partie de son plan de salut. Et le Seigneur, il nous fait cet honneur de souffrir avec nous. Nous participons, voyez. Saint Augustin, je le dis souvent, a dit: Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Nous participons en particulier par la souffrance. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Jean-Paul II, qui avait écrit beaucoup pour la famille à travers des discours, des gestes, un jour, quand il est tombé malade, dira qu'il a compris maintenant que le Seigneur lui demandait d'offrir ses souffrances pour cette cause. Et je me souviendrai aussi d'un témoignage d'un cardinal qui avait été persécuté, qui disait: c'est beau de parler du nom du Seigneur, c'est beau de partager au nom du Seigneur, c'est encore plus beau de souffrir au nom du Seigneur. Il y a quelque chose de très fort. Dans les actes des apôtres, les apôtres sortent après s'être fait rabrouer par les juifs, frappés, ils disent: heureux d'avoir été jugé digne d'être frappé au nom de Jésus. Il y a quelque chose de folie aux yeux humains, du monde. Mais pourtant, c'est vrai. Donc je crois qu'il faut être courageux. Il faut oser être courageux, y aller vraiment. Pauvrement, parce qu'on est petit, parce que c'est difficile, mais il faut sortir du christianisme, j'allais dire gélatineux. Il faut retrouver la place de la croix, elle fait partie de la vie chrétienne. Voilà, c'est vrai. Dieu ne souffre pas en lui-même, il est parfaitement heureux, toujours heureux, il est plein. S'il souffrait en lui-même, il serait incomplet. La Trinité est pleine, parfaitement sainte. Mais Dieu qui s'est uni aux hommes, par l'union du Verbe éternel avec l'humanité, en Jésus s'est uni de nature. Une personne de nature, vrai Dieu, vrai homme, Dieu souffre. Dieu souffre. Et Dieu souffre toujours. Pascal dira: le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Le Christ souffre toujours dans la présence sacramentelle. Méditons cela quelques instants. Marguerite Marie, devant le Saint-Sacrement en présence du Christ, va un jour entendre le Christ lui dire: qu'il ne trouve qu'ingratitude. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude. Et j'en prends pour mon compte, spécialement de ceux qui lui sont consacrés. Donc il y a des blessures du cœur que Dieu reçoit, qui souffrent encore. Dieu continue à souffrir. Voyez ? Dieu souffre dans ses chrétiens. C'est l'expérience de Paul. Paul qui croit en Dieu, qui persécute au nom de Dieu, pensant bien faire, qui un jour découvre que Dieu est Jésus. Tu es qui, Seigneur ? Je suis Jésus. À Damas. Ah ok, Dieu c'est Jésus. Bon ok, on arrête. Changement de fusil d'épaule. Mais il ne lui dit pas que ça. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul, il dit, mais en gros, c'est moi qui rajoute ça. J'ai jamais persécuté Jésus. Si, tu as persécuté des chrétiens. Persécutant un chrétien, tu as persécuté Jésus. Parce qu'un chrétien, depuis le baptême, s'est attaché à Jésus. Jésus est en eux. Et Paul comprend ce qu'est l'Église, le corps mystique. Les chrétiens sont attachés à Jésus. Un chrétien qui souffre, qui est persécuté, c'est Jésus qui est persécuté. On peut blesser Jésus. Le Christ souffre sacramentellement. Le Christ continue à souffrir parmi ses chrétiens. Donc, il est en agonie. Donc, la passion est réelle. La messe, ce n'est pas d'abord le repas du Seigneur, c'est le saint sacrifice de la messe qui sauve le monde. C'est la passion rendue en direct. C'est une porte ouverte sur l'éternité. Nous sommes rendus présents en direct au sacrifice de la croix. Pour tous les hommes, c'est le pardon offert à tous les hommes. C'est la consolation offerte à tous les hommes. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Et un chrétien qui prend conscience de cela adore son Seigneur avec une vraie génuflexion, mais plus que cela, il s'offre dans l'offrande du Seigneur. Voyez, c'est la participation sacerdotale de tout baptisé. Je m'offre avec toi, j'offre dans l'offertoire mes souffrances pour toi et pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. On souffre ensemble, ça a du sens. Vous avez des malades qui sont au premier rang à l'église, qui n'ont rien d'autre à faire, parce qu'ils ne peuvent plus faire autre chose, les pauvres. Et ils offrent leur souffrance. Il est possible que ce soit la plus grande action féconde sur cette terre. Ne confondons pas efficacité et fécondité. La croix est féconde. Il n'y a pas de mission réussie, d'apostolat réussi sans croix. Grillon de Montfort, qui avait l'habitude d'avoir des croix pendant les missions, un jour s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de croix. Il a eu cette très belle phrase, « Quelle croix, il n'y a pas de croix ?» Mais il avait raison. Parce que la fécondité est liée à la croix. L'Église est née à la croix. La mère de l'Église, Marie, qui est mère de Dieu, devient mère des hommes à la croix. Sa fécondité s'amplifie. Notre fécondité est liée à la croix pour une part. Voyez, ce que nous accueillons dans le mystère de Dieu, ce que nous acceptons et offrons, c'est peut-être la plus forte des actions que nous pouvons faire. Donc, j'allais dire, apprenons à dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, béni soit la Sainte Croix du Seigneur, et essayons de rentrer dans ce mystère. Aujourd'hui, nous en avons besoin. Amen.